Radio Classique, les spécialistes.
Voilà, nous sommes avec Bruno Jeudy qui est au téléphone, qui, vous savez, s'occupe de la politique à Paris Match et aussi à BFM TV. Nous sommes avec Jérôme Sainte-Marie qui est politologue et avec Dimitri Pavlenko qui commente évidemment la scène politique avec évidemment un regard économique que vous connaissez depuis des années sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour à tous les trois. Je suis ravi. D'abord, Jérôme, on va commencer avec vous un tour, j'allais dire, de pointage politique assez précis sur l'ensemble de ce gouvernement. Visiblement, Jean Castex est allé faire un tour des présidents des trois assemblées pour les prévenir de qui était dans ce gouvernement, ce qui est quand même un usage qui n'était pas vraiment le cas ces derniers temps. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le président du Sénat, pour le président de l'Assemblée nationale et pour le président du Conseil économique et social. Maintenant, il faut essayer de faire une sorte de pointage politique version ancien monde. Quand je faisais le décompte tout à l'heure, vous avez quand même au poste de responsabilité essentiellement des gens qui viennent de la droite, c'est-à-dire Castex, Le Maire, Darmanin, Bachelot, Blanquer, Sébastien Lecornu, Riester, Brigitte Klinkert, qu'il ne faut pas oublier, et Amélie Montchalin. Alors, est-ce que c'est une lecture qui a une utilité dans la perspective de la présidentielle?
Oui, c'est assez intéressant de voir que 3 ans après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, eh bien, on est encore à pointer qui vient de la gauche et qui vient de la droite. Et effectivement, c'est plutôt pour ce gouvernement, c'est plutôt des gens issus de la droite. Il n'y a pas tellement d'ailleurs de gens issus, si j'ose dire, du Nouveau Monde. Il n'y a pas une transformation importante du recrutement. On a très peu de gens issus, comme on dit, de la société civile, à part Monsieur Dupond-Moretti. Et on a plutôt l'impression de réseaux sarkozystes qui seraient présents. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que les réserves politiques d'Emmanuel Macron, La République En Marche, sont du côté de la droite. Si on regarde les variations de la popularité ou les variations électorales de La République En Marche depuis le début du quinquennat, c'est essentiellement leur amplitude dépend du ralliement ou pas, du retrait ou pas, des sympathisants de droite. C'est particulièrement net depuis les dernières élections européennes, où là, le départ d'un certain nombre d'électeurs de centre-gauche avait été compensé par des électeurs issus de la droite. Dans une période de très grande tension sociale comme celle que l'on connaît depuis 2 ans
évoquer, bien évidemment,
et qu'on va connaître probablement dans les mois prochains, eh bien c'est plutôt effectivement des sympathisants de droite qui seront sensibles, qui auront à cœur de défendre le gouvernement face à différentes contestations et surtout pour mener un certain nombre de réformes, puisqu'il semblerait que le cours de la politique générale de ce gouvernement ressemble énormément à celui du gouvernement précédent.
Alors Gérald Darmanin, vous le savez, a été pendant très longtemps très proche de Xavier Bertrand, et on parle de Xavier Bertrand comme une candidature à droite, donc évidemment c'est un peu l'anticorps à l'intérieur du gouvernement de Jean Castex. Quant à Blanquer, c'est le meilleur ami de François Baroin, qui lui donc pourrait aussi être un candidat de droite. Donc on a à l'intérieur du gouvernement de Jean Castex des gens qui finalement sont des sortes de contrepoison à ceux qui pourraient être les candidats de la droite. Mon cher Dimitri, si on fait le plan économique, alors d'abord ça s'est très très renforcé, mais les dossiers sont extrêmement compliqués. Bon, Le Maire, on connaît, vous connaissez évidemment beaucoup. Madame Borne, ça va être extrêmement compliqué parce qu'elle a quand même sur le dos, il faut se souvenir que au mois de février dernier, ensemble, on pointait la décélération du chômage à 7%, et maintenant la Banque de France dit que le chômage pour 2021, c'est pratiquement au-delà de 11%, voire même de 12%, donc ça va être un dossier absolument phénoménal.
Oui, bah Elisabeth Borne, sera-t-elle la ministre du chômage? Alors en fait, les dossiers immédiats pour elle, sur l'emploi, il y a la question de la formation, la question des jeunes. Alors c'est un sujet qui est rattaché d'ailleurs à Bercy, il y a ce grand plan qui doit arriver assez vite. Il y a la renégociation de la réforme de l'assurance chômage qui a été adoptée l'année dernière, mise en pause au printemps au moment de la crise et qui doit être rediscutée avec les partenaires sociaux. Et puis il y a le sujet des retraites que le gouvernement, que Emmanuel Macron souhaite remettre.
Et dont les syndicats et le patronat ne veulent pas pour l'instant.
Ah oui, c'est ça, exactement. Tout le monde disant qu'en fait c'est vraiment pas le moment de remettre ça maintenant sur le métier. C'est vrai qu'elle a une expérience quand même du dialogue social. Elle a été présidente de la RATP. Mais c'est vrai qu'Elisabeth Borne, pourtant on la disait en difficulté, peu visible au ministère de l'écologie. On lui donne cette chance maintenant de faire mieux que Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Je pense qu'elle a été aussi choisie pour sa loyauté, pour sa fidélité. Parmi les 31 membres du gouvernement, il y a 8 rescapés de 2017. Hein, seulement, Elle en fait partie. Maintenant, globalement, sur l'ensemble du gouvernement, bon, je constate qu'il y en a les deux tiers qui étaient déjà dans l'équipe précédente. Mm-hmm. Il y a très très peu d'entrées. Si vous regardez, finalement, il n'y a pas eu de débauchage aujourd'hui. Même à droite, il n'y a pratiquement eu personne de nouveau d'arrivant. Mm-hmm. Même Roselyne Bachelot, on ne peut pas dire que ce soit un débauchage, puisqu'elle était déjà, elle, sortie de la vie politique, et voilà qu'elle y revient. Là où il n'y a en plus pas de surprise, et c'est en ça que ce gouvernement peut être considéré comme décevant, c'est dans les découpages des périmètres ministériels. Enfin, je veux dire, si Emmanuel Macron avait voulu envoyer un message fort sur la question de l'écologie, il l'aurait rattaché, je pense, à Bercy. Ça aurait été un message très fort. On aurait fait une relance verte. Alors là, très concrètement, on voit que dans le périmètre de Bruno Le Maire, c'est un ministre de la relance, voilà, c'est à côté de l'écologie et de l'environnement qui est confié à une ministre qui ne fera pas de vagues, à Barbara Pompili, qui claquera pas la porte comme a pu le faire Nicolas Hulot. Barbara Pompili ne fermera pas une deuxième fois Fessenheim, ça c'est clair.
Alors, question à vous Bruno Jeudy, évidemment posée à tous les deux, c'est-à-dire à Jérôme Sainte-Marie et Dimitri Pavlenko. Vous avez le couple dont tout le monde parle ce matin. Alors nous avons dans la tête évidemment, à l'époque de Mitterrand, Badinter-Lang, c'est-à-dire le grand avocat et celui qui a relancé la politique culturelle en France d'une manière populaire. Mon cher Bruno, est-ce que vous avez l'impression que le blast est là, c'est-à-dire qu'effectivement, avec Bachelot et Dupond-Moretti, ce ne sont pas du tout les mêmes personnalités. Hein. Mais le président de la République a enfin trouvé justement un couple qui va faire parler de lui et qui va donner à ce gouvernement un côté un peu tonitruant.
Bah, figurez-vous, c'est exactement... Il voulait exactement qu'on dise ça ce matin, surtout après ce que vient de dire Dimitri, qui est vrai, c'est-à-dire qu'au fond, ce gouvernement, si on met de côté justement Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot, est assez dans la continuité, une espèce de changement dans la continuité sans grand relief. Et le relief est venu avec cette surprise d'Éric Dupond-Moretti, je dirais même davantage que Roselyne Bachelot. Éric Dupond-Moretti, c'est l'effet waouh, comme on dit en Macronie, c'est-à-dire là on se dit Emmanuel Macron renoue un peu avec le côté disruptif de 2017, je dirais même le côté explosif. Parce qu'Éric Dupond-Moretti, c'est, on l'a vu hier soir avec les premières réactions de certains syndicats de magistrats. C'est la guerre avec les juges. Quant à Roselyne Bachelot, écoutez, Guillaume, je parle presque sous votre contrôle. Jusqu'à présent, il n'a pas eu la main verte, Emmanuel Macron, en matière de culture, et pourtant, il est très attaché à ce sujet. Et il avait pris une intellectuelle, une éditrice, Françoise Nyssen, mais qui était si peu politique qu'on ne l'entendait pas. Ensuite, il a voulu prendre un professionnel à l'Assemblée, spécialiste des questions de communication, et là, ça a péché sur le côté, justement, culture, artiste. Donc, il essaie de trouver la synthèse avec Roselyne Bachelot, qui est devenue davantage une star politique qu'une politique tout court. Donc, peut-être que cette fois-ci, il aura la main verte.
Voilà, donc concernant Roselyne Bachelot, il faut savoir que l'expérience d'avoir été plusieurs fois ministre est aussi une expérience de l'administration et la possibilité de gueuler un petit coup pour obtenir les arbitrages dans un ministère. Exactement. Où le budget est évidemment un budget faible. Évidemment, je vous repose à tous les deux. Jérôme et Bruno restent avec nous. Et vous, Dimitri, la question qui est celle de Bachelot, on en parlera beaucoup avec Lang tout à l'heure. Donc, appesantissons-nous sur le cas Dupond-Moretti. On a quand même rarement entendu au lendemain, évidemment, d'une nomination, une déclaration aussi forte des différents syndicats de magistrats, l'USM majoritaire au syndicat de la magistrature, déclaration de guerre. Donc est-ce que Dupond-Moretti finalement part de là le côté Falstaff, ch'ti ? Est-ce que ce Dupond-Moretti va être beaucoup plus subtil qu'on ne le pense et tout simplement rééquilibrer en matière de liberté les pouvoirs entre les magistrats et les avocats ? Jérôme.
On peut très bien avoir des surprises, mais c'est vrai que c'est troublant parce que cet effet de surprise, cet effet waouh, peut être payé assez cher. Alors évidemment, cet effet waouh, il faut le répéter, et d'autant plus nécessaire que la justification du changement de Premier ministre et de la formation de ce nouveau gouvernement, là, cette justification n'est pas évidente pour l'opinion publique. Ça n'est pas tout à fait le monde d'après qui avait été promis, puisque ça ressemble beaucoup au monde d'avant. Donc on a cette figure du garde des Sceaux. Il faut bien voir qu'il n'y a pas seulement le rapport qu'il va avoir avec les magistrats qui compte, mais aussi le rapport qu'il va avoir avec la police. Or, la magistrature et la police ont été largement sollicités par le pouvoir en place, notamment lors de l'affaire des Gilets jaunes. Il y a quand même pas mal de dossiers qui sont pendants sur à la fois l'action donc policière, mais également sur des peines très lourdes prononcées à ce moment-là. Il y a tout un contentieux qui existe.
Il a défendu des policiers, par exemple, contre Jean-Luc Mélenchon à cette période-là, et Éric Dupond-Moretti.
Oui, par exemple, et puis encore une fois, les peines ont été, enfin si vous faites un dossier, c'est quand même un vrai sujet, les peines qui ont été prononcées contre les manifestants sont assez extraordinaires. C'est ce qui fait que les magistrats ont envie d'être protégés, parce que justement ils ont été amenés à pratiquer une politique assez répressive, même certains parlaient même de justice d'exception, et là c'est un avocat qui n'est pas exactement à leur camp qui est annoncé. Ça crée un désordre, parce que si vous voulez, quand vous avez amené les instances répressives de l'État à se comporter en votre faveur, vous ne pouvez pas ensuite donner l'impression de les lâcher. Mmh. On a eu ce problème-là avec la police, hein, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un peu le tour des magistrats.
Mais en même temps, j'attends avec impatience de voir. Il est assez imprévisible, Dupond-Moretti. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un caractère qui est volcanique, mais pour ce qui est de ses prises de position, des différents dossiers qu'il a traités, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extraordinairement éclectique.
Oui, mais je pense...
Dimitri.
D'une part, il ne faut pas juger Éric Dupond-Moretti à la liste de ses clients par le passé. Parce que moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ah, il a défendu Abdelkader Merah, il a défendu Kerviel, il a défendu Balkany. C'est un avocat, je veux dire, il défend ses clients. Voilà, donc ça c'est pour d'une part. Historiquement, quand on regarde les ministres de la justice qui ont été avocats, soit ce sont
Kliman Badinter.
Voilà, ils ont été alors des ministres à mission. Je pense pour Robert Badinter qui avait été choisi précisément pour l'abolition de la peine de mort. Soit ce sont des politiques qui ont eu une carrière d'avocat. Là, par exemple, on pense à Pascal Clément qui avait été ministre de la justice sous Jacques Chirac. Quel type de ministre de la justice sera Éric Dupond-Moretti? Est-ce que c'est un ministre à mission? Est-ce qu'il vient pour réformer par exemple la magistrature sur le plan de la formation? Il a eu des déclarations très fortes lui souhaitant la suppression de l'école nationale de la magistrature.
Il veut que les magistrats et les avocats soient formés de la même manière à l'américaine.
Voilà. Moi je m'arrête pas sur les déclarations de l'USM qui est aujourd'hui extrêmement à gauche et qui tape nécessairement sur Éric Dupond-Moretti qui lui aussi a eu des mots durs vis-à-vis de la magistrature. Je lui laisse sa chance parce qu'il peut se révéler être soit un ministre catastrophique, soit être aussi un très bon ministre de la justice, parce qu'aujourd'hui, il est l'avocat de la justice en général, du système judiciaire français. Et on sait que ce système judiciaire français va mal, il est paupérisé, les Français qui ont un mail à partir avec la justice le savent, les procédures sont extrêmement longues, les magistrats se plaignent que leurs carrières sont pilotées par le ministère, ça c'est peut-être aussi un sujet de réforme. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire, et s'arrêter simplement sur ces coups de gueule, le fait qu'il est très médiatique, il a une carrière aussi en marge de son activité d'avocat dans le spectacle. C'est un peu court, laissons-lui sa chance. J'ose croire qu'Emmanuel Macron ne l'a pas choisi comme ça sur un coup de tête, parce que ça n'est pas exclu que le président de la République, qui fonctionne aussi un petit peu comme ça, qui est très, qui apprécie la loyauté, on l'a vu avec Christophe Castaner, cet acharnement à le protéger qu'il a eu, que Éric Dupond-Moretti ne soit pas le choix simplement du cœur.
Nous sommes avec Bruno Jeudy qui est au téléphone avec nous. Je le rappelle, donc BFM Paris Match. Bruno, est-ce que vous avez le même sentiment concernant Dupond-Moretti? Je rappelle que nous parlons de Roselyne Bachelot avec Jacques Lang tout à l'heure, et puis avec donc Philippe Tesson, très attaché donc au monde culturel, et Cécile Cordunet. Restons donc sur l'affaire Dupond-Moretti, vous l'apercevez comment?
C'est-à-dire que les syndicats, ils sont partis un peu haut et fort.
Termine.
Ils sont partis haut et fort, d'autant plus que Éric Dupond-Moretti n'a pas encore prononcé le moindre mot, qu'il est déjà condamné. Donc c'est assez excessif. Je rejoins Dimitri sur ce point. On attendra de connaître sa mission. Je vous rappelle que ce gouvernement est nommé pour moins de 2 ans, qu'en gros, avec la campagne présidentielle, il y a 18 mois. Donc il ne va pas non plus révolutionner la justice. On verra à quel dossier il veut vraiment s'attaquer, quelle mission il veut cibler. Est-ce que c'est réformer l'École nationale de la magistrature? Moi, je crois que la question fondamentale, ça reste quand même la question de l'indépendance du parquet. Donc on verra comment il va s'y attaquer. Mais je me garderai bien de faire le moindre procès d'intention à Éric Dupond-Moretti. Ce qui est certain, c'est que quand vous faites rentrer Éric Dupond-Moretti dans un gouvernement, vous savez à peu près que ça va pas être un long fleuve tranquille. Alors, Emmanuel Macron, en la matière, il a déjà essayé le grand coup médiatique avec Nicolas Hulot, et ça s'est quand même pas très bien terminé. Donc, on va voir comment il va gérer une personnalité de cette ampleur, et dans un gouvernement qui est dirigé par ailleurs par Jean Castex, qui, je le rappelle, lui, n'a pas les expériences de ses grandes équipes gouvernementales. Donc, tout ça est très nouveau, et il va falloir surveiller les premiers pas de ce gouvernement.
Merci mille fois. Il faut aussi rappeler que nous sommes dans la perspective des présidentielles avec Darmanin donc à l'intérieur, Castex donc Premier ministre. Et évidemment, c'est aussi un des arguments en dehors de ce que vous disiez tous les trois, à savoir la technicité, la réforme effectivement de la justice. Évidemment, dans un débat présidentiel, Dupond-Moretti l'avoir à ses côtés, par exemple, face à Mélenchon ou les autres, ou Marine Le Pen, ce sera forcément un argument, puisque à l'oral, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est assez bon. 7h55, merci Jérôme d'être venu sur l'antenne de Radio Classique.
Merci
Dimitri, nous retrouvons avec bonheur demain. Nous avons rendez-vous avec Pierrick Fay pour le décryptage de l'actualité économique. Nous allons parler du plan de relance du secteur automobile.